8. Maintenant, les enfants de Lugrin allaient aussi avec Joël. Il y avait eu Juliette, puis il y avait eu les enfants de Lugrin. Il y avait eu pour finir beaucoup d'autres enfants. Joël disait « Qui est-ce qui vient avec moi aujourd'hui ?» Il donnait un ordre dans le porte-voix. Il mettait ses mains en rond autour de sa bouche pour faire descendre sa voix jusqu'aux machines, puis « En route !» Et les lys, s'étant mises en mouvement, venaient avec son choc à intervalles toujours plus courts, parce qu'elles tournaient de plus en plus vite, ou bien on était dans une pirogue, sur des rapides. Alors Joël faisait asseoir les enfants l'un derrière l'autre, puis « Attention, penchez-vous tous du même côté !» Depuis le soir qu'ils s'étaient réveillés, et on avait bien vu qu'ils se réveillaient, dans la salle à boire du Petit Paris, assis sous un portrait, quand il était seul à sa table, quand il avait porté la tête en avant. Puis il était arrivé devant vous avec le monde, et on était parti avec lui. Et, au Petit Paris également, il y avait toujours plus de gens qui venaient l'entendre, car il ne quittait plus guère la salle à boire lorsqu'il n'était pas avec les enfants. De toutes les façons et de tous les côtés, le monde nous est arrivé dessus, et il a été à la fois pour nous dans des mots et dans des images. Nous aussi, nous étions endormis et pas réveillés. Nous étions entre quatre murs. Ces murs d'air, ces murs de montagne, ces murs de ne pas voir et de ne pas savoir. Il venait en bas, et on se disait, comment est-ce qu'on faisait pour vivre ainsi, et pour se contenter de si peu? Comment est-ce qu'on pouvait vivre si petit, quand c'est tellement grand, et il y a tant de choses? Ce dimanche, dès les 11 heures, c'est-à-dire dès le moment de l'ouverture du café, Zumbach, le douanier, a été là, et Chautan a été là, et Lugrin a été là. Ils avaient dit à Joël, « Viens t'asseoir avec nous. » On le faisait venir, on lui payait à boire. Il vint. Il ne vous a pas regardé. Il ne vous regardait plus jamais. Vers midi, ceux qui se trouvaient à la même table que lui se levèrent, l'un après l'autre. Lui resta là, car il n'avait plus d'heure pour manger, et peut-être qu'il n'avait plus besoin de manger. Et lorsque ses autres revinrent, ils virent que la petite Juliette était avec lui. Il l'avait fait se mettre à côté de lui, sur une chaise. Il lui parlait. Il ne s'est pas interrompu de lui parler. C'était sur la terrasse, ce jour-là, parce qu'on y était mieux que dedans par la forte chaleur qu'il faisait. C'était derrière les lauriers roses. Lui, entre deux de ces lauriers, l'un à fleurs blanches, l'autre à fleurs roses, vous montrait de son bras tendu la dent d'Oche, qui est une montagne de chez nous. Au milieu de la chaîne, bordant la rive sud du lac, c'est la plus haute des sommités, avec une forte tête rocheuse qui domine toutes les autres. Joël montrait la dent d'Oche. On a vu la dent d'Oche fumer. Une bonne et brave montagne de chez nous, une bonne et brave montagne de chez nous, que Joël montrait ainsi à la petite. C'est un volcan. Et, en effet, on voyait la dent d'Oche qui fumait. C'est des îles qui sont des montagnes, dont le fin bout seulement sort de la mer. Elles fument le jour et la nuit, elles sont rouges. On regardait la dent d'Oche. Elle aussi, elle sortait de l'eau. Elle trempait dans l'eau, et toute sa partie d'en bas était cachée. Elle montait ensuite, étageant devant vous ses champs, ses prairies, ses forêts, ses pâturages, ses rochers. Et tout ça, c'est pourtant de la réalité, c'est quelque chose de réel, c'est des choses qui sont, qui existent. Mais plus haut alors, dans le bout, là, une grosse fumée s'élevait, que le soleil dorait sur le côté. Elle penchait à gauche, se balançant légèrement devant le ciel, comme une plume à un chapeau. À ce moment, les bateaux du dimanche commencèrent à arriver. Les hommes du bateau à vapeur jetaient au radeleur les grosses cordes, encore mouillées d'avoir servi aux stations précédentes. Le radeleur les enroulait autour des deux gros pieux mis là exprès, comme le montrait assez leur usure et leur état d'amaigrissement, à la place où les cordes venaient d'ordinaire se nouer. On attachait le bateau comme on voit les paysans faire de leur cheval quand ils entrent boire un verre à l'auberge. Ensuite, les passagers débarquaient, pendant que le contrôleur criait « Activez le débarquement !» Entre les deux mains courantes, il y a eu, un instant, ce flot d'ombrelles, de chapeaux à fleurs, de chapeaux de paille, qui venaient de votre côté comme quand on a levé une écluse. Un instant, le débarcadère en était tout recouvert. Puis le bateau sifflait, on retirait la passerelle. Alors, en même temps qu'il était quitté par le bateau, et à ce même bout, le débarcadère se vidait, tandis qu'il continuait à se déverser de l'autre jusqu'à complet épuisement, n'étant plus enfin qu'une ligne droite, tracée sur le vide, sur ces vapeurs du fond du lac, ces brumes de quand il fait beau temps. Joël parlait toujours des îles qui fument. Il était toujours à la même table, avec la petite Juliette, avec Chautan, avec Zumbach, avec Lugrin. Et cependant, aux autres tables, les promeneurs venus par le bateau avaient pris place. Il n'y avait plus eu finalement une seule chaise qui ne fût occupée. Bonne affaire pour le patron. Tandis que le quai, maintenant, était tout brillant de couleurs, à cause des toilettes des femmes, et les hommes étaient souvent en bras de chemise. Joël ne parlait ni plus haut, ni plus bas, ni plus vite, ni plus lentement. Il venait parmi vous sans s'occuper de vous, avec les choses qu'il voyait et qui l'empêchaient de vous voir. Il venait parmi ici avec le monde. La petite Juliette regardait. On voyait passer sur les eaux, dans leurs pirogues, des hommes d'une autre couleur de peau, sous des voiles d'une autre forme. On voyait fumer la dent d'Oche. Déjà, Chautan ne savait plus très bien où il était, faisant de temps en temps un mouvement avec la tête, comme pour écarter de lui ces choses qui venaient, faisant un grand effort aussi dans ses pensées, pour tâcher de les démêler. Puis, on a vu qu'il y avait renoncé. Lugrin avait ôté sa pipe de sa bouche. Il n'avait pas remis sa pipe dans sa bouche. Et c'est alors aussi que les gens qui étaient installés sur la terrasse ont commencé à faire silence, se tournant vers Joël avec étonnement. Mais ils ont eu assez rapidement les explications nécessaires, grâce à Zumbach qui vous les a données. Zumbach avait quitté sa place, et il allait de table en table, se penchant en avant avec son ceinturon, son coupe-chou, son revolver, sa tunique gris de fer qui se cassait en deux à hauteur de la taille, tandis qu'il y avait plus haut sa petite moustache blonde. Et il a fait le tour du monde. « Ah, c'est comme ça! Et puis c'est beau, hein, ce qu'il dit. En tout cas, il a l'air d'y croire. » Et on se remettait à écouter Joël, pendant que Zumbach allait plus loin. Et Joël, de son côté, allait toujours plus loin. Ainsi, il n'a pas pu la voir quand elle a passé. Encore bien moins la voir que l'autre fois. Parce qu'alors Suzanne était seule, et à présent elle était prise dans la foule qui l'a portée jusqu'à lui, emportée. Elle a été portée plus loin, elle a disparu. Un moment après, elle reparut. Joël ne l'avait toujours pas vue. Elle l'a regardée encore, elle a vu qu'il était là. Et tout à coup elle est repartie, marchant vite, comme quand une idée vous est venue. Et on a à présent une chose à faire qu'on fait. Un bateau à vapeur était arrivé en sens inverse. Il y avait dans le port une quantité de petits bateaux à rames, peints en toutes sortes de couleurs sur l'eau verte, des verts, des blancs, des bleus, des rouges, des verts et blancs, des bleus et blancs, des rouges et blancs, qui s'en allaient ou qui rentraient, étant loués à l'heure ou à la demi-heure. Justement, à une plaisanterie que quelqu'un avait faite à une table voisine de la leur, Lugrin venait de répondre. « Taisez-vous, vous autres, vous n'y entendez rien. C'est que nous, on est de la navigation. » Justement, il y avait eu cette phrase de Lugrin quand on a entendu « Juliette !» On appelait d'une voix brève, dure, criarde. Puis on a vu une femme qui venait en courant, et Suzanne l'accompagnait. Joël n'a rien vu, Joël n'a rien entendu. Et elle non plus, d'abord, la petite. Alors la femme a appelé de nouveau, tout en venant. La petite Juliette s'était mise à tousser très fort pendant que sa mère l'emmenait. Elle avait bien essayé de ne pas se laisser faire, s'étant jeté contre Joël comme pour lui demander de venir à son secours, mais sa mère l'avait prise par le bras. Ses yeux se sont remplis de larmes, c'est tout. Et Madame Roy, « Allons, tu as compris. Et vous, recommençait-elle, s'adressant à Joël, faites seulement attention à vous. Vous n'avez pas le droit, vous entendez? Elle est à moi. Faites attention, je vous dis, ou je vais chercher la police. » Tirant de nouveau sur le bras de la petite, tandis que toute la terrasse s'était tournée vers elle, et de nouveau, Suzanne n'était plus là. La petite Juliette ne disait toujours rien. Elle a seulement regardé encore Joël. Elle l'a regardé une dernière fois. Et lui, alors, a semblé revenir à lui, mais il lui a fallu du temps, de sorte qu'on emmenait déjà la petite. Elle a eu une quinte de tout, et aussi longtemps qu'elle a pu, elle a continué de se tenir tournée vers Joël, le regardant à travers l'eau qui lui remplissait les yeux. Puis, de nouveau, une grosse toux l'a prise, l'empêchant de ne plus rien voir. Pendant que Joël revenait ici, mais il lui a fallu du temps. Ensuite, il a été ici, semble-t-il, un instant du moins. Il s'est élevé de dessus sa chaise. Il a fait un geste. Il a peut-être encore cherché du regard Juliette parmi la foule et entre les lauriers. Puis ce fut tout à coup comme s'il l'avait oubliée de nouveau, ayant refait en sens inverse le trajet. Il était retourné là d'où il était venu. Il s'était rassis sur sa chaise. Sa main était retombée. Il tenait de nouveau ses yeux fixés devant lui. « Tu vois, ça s'enfonce, » a-t-il dit. Il regardait dans la direction du port qui était tout proche, n'étant séparé de nous que par la largeur du quai. « Tu vois, c'est haut d'abord, comme une maison de cet étage, cette coque, puis ça descend toujours plus. » Au commencement, tu es obligé de renverser la tête. Tu es obligé ensuite de te pencher en avant. Tu regardes de bas en haut au commencement. Tu regardes de haut en bas pour finir. Encore, ne voit-on plus que le dessus du pont. C'est des chargements de briques pour Casablanca. Il recommençait ses voyages. Il devait être 5 heures environ. À ce moment, on a vu les feuilles des platanes faire toutes le même mouvement, comme des mains qu'on lèverait, et elles ont montré leur côté clair. Toutes les montagnes ont commencé à fumer, et non pas une seulement. Chaque pointe, chaque sommet, chacune de ces cheminées ont laissé partir loin d'elles, vers nous, une épaisse vapeur grisâtre. Ces vapeurs se sont réunies au-dessus de l'autre rive, la surplombant en demi-voûte, tandis que nous étions toujours dans le soleil. La Vaudère se levait. Joël a parlé dans la Vaudère. C'est un vent d'est, né non loin d'ici, dans le fond du lac, où il est enfanté par l'entourage bien fermé des montagnes, contre la pente desquelles il glisse. Puis il nous vient par-dessus l'eau. Un vent chaud. On a senti qu'il faisait encore plus chaud qu'avant, malgré la violence du courant d'air. De nouveau, les feuilles des platanes sur leur côté oriental ont été soulevées, puis tenues droites en l'air dans une espèce d'immobilité. En même temps, on a vu le lac devenir de 2 couleurs. Le lac, vu en perspective et en profondeur sur la gauche, a été fait de 2 bandes cousues ensemble, comme celles d'un drapeau. L'une, violet, sombre, l'autre, vert d'absinthe. Avec cette différence pourtant que la plus sombre, qui était la plus éloignée de nous, augmentait rapidement de largeur. Et bientôt, tout le lac a été de cette même seule couleur, tandis qu'il se plisse, il se soulève. Il se met à courir vers vous avec tous ces dos ronds qu'on voit se balancer en se serrant l'un contre l'autre, comme quand il y a un troupeau de moutons. Et il y a aussi ce mur devant, comme quand un troupeau s'avance, quand il est poussé par derrière, quand le chien devenu méchant se met à mordre, quand le berger, pressé de rentrer, lève son bâton. Cette même après-midi, les 2 fils de Lugrin, ayant vu leur père s'en aller, puis leur mère à son tour prendre la direction de la ville, les 2 fils de Lugrin s'étaient mis à se parler à l'oreille. Il n'y avait encore personne sur la grève, vu l'heure et la chaleur, et que c'était dimanche. Alors Georges, qui avait 8 ans, avait dit à André, qui en avait 6, « Est-ce qu'on y va ?» Ils se tenaient assis dans l'ombre de la maison de planches, et, bien que personne ne pût les entendre, ni même les voir, ils continuaient de parler bas.
« Est-ce loin ?»«
Oh, c'est sûr que c'est loin !» a dit Georges. « Mais ça ne fait rien, au contraire, parce que ce sera plus beau si c'est loin !»
Ils avaient leurs habits du dimanche. C'est pourquoi leur mère leur avait fait tant de recommandations avant de s'en aller. Des habits de toile grise, tout propres. Et chacun un beau chapeau de paille, neuf, à ruban bleu marine, avec un nom de bateau écrit dessus en lettres d'or. André a demandé encore,
« Comment est-ce qu'ils s'appellent, ces pays ?»«
Ils ont toute espèce de nom. »
« Et, demanda André, « qu'est-ce qu'on aura à manger ?»
Georges, sans répondre, a fait signe à son frère de le suivre. Il a été prendre la clé de la maison qu'on tenait sous un pot à fleurs renversé. On a vu que tout avait été préparé d'avance dans sa tête, et c'est pourquoi il n'a pas hésité, ayant ouvert l'armoire où on tenait le pain, dont il prit toute une demi-miche. À côté se trouvait sur une assiette un gros morceau de fromage qu'il prit aussi, avec un couteau. Il y avait dans un coin 2 ou 3 vieilles serviettes, dans l'une desquelles il enveloppa le pain et le fromage, la nouant aux 4 coins.
« Tiens-moi ça, » dit-il à son frère, « parce qu'il faut encore que j'aille chercher de l'eau. »
Il alla remplir, en effet, 1 litre vide dans le seau, puis il boucha soigneusement le litre. Alors, il ne leur a plus manqué que les rames, dont il y avait 2 paires, que Lugrin, chaque fois qu'il s'était servi du bateau, déposait par précaution dans l'angle voisin de la porte.
« Prends encore la bouteille, » dit Georges. « Moi, je prends les rames. »
Et il n'y avait toujours personne sur la grève, de sorte qu'ils ont pu sortir l'un et l'autre. Ils ont pu refermer la porte, replacer la clé où ils l'avaient prise, sans être dérangés. Puis, s'acheminant ensemble, André les 2 mains occupées, et Georges une paire de rames sur chaque épaule, ils sont allés jusqu'au bateau qu'ils ont tiré à eux dans le bout de la passerelle. Toujours ce grand beau temps. L'eau était parfaitement lisse, sans un pli, comme recouverte d'une espèce d'huile, faisant une peau qui empêchait son mouvement intérieur de percer. Georges entra le premier dans le bateau qu'André tenait par la corde. Il a fixé les 2 paires de rames à leurs chevilles. Il a disposé sous le banc d'arrière les provisions dans leur linge et la bouteille d'eau. Puis, « Arrive, c'est prêt !» ayant pris le commandement de l'expédition comme il convenait. Et à ce moment, le petit André a eu un instant d'hésitation.
« Est-ce loin ? Et si on se perd ?
Tu es bête, puisque je te dis que je sais où c'est, moi !»
À cause de la grande étendue de l'eau qui fait peur sans rien dessus. Et le petit André,
« C'est vrai ?»«
Bien sûr, et puis on longera la rive. Tu promets ?»
Ils se sont mis aux rames, tous les 2, parce qu'ils avaient ça dans le sang. Ils n'allaient pas trop lentement. Ils allaient un bout de temps, puis les rames s'arrêtaient. Elles s'élevaient un moment sur l'un des côtés du bateau, un peu trop, crevant ensuite la pellicule qui était sur l'eau, dont elles ressortaient toutes brillantes et argentées, avec des épines de feu, des rubans de métal, des grappes de collier. Elles s'arrêtaient en l'air. C'est quand André posait une question, et Georges,
« Naturellement, si on en trouve une, qu'on la fera cuire. J'ai des allumettes, n'aie pas peur.
Pourvu qu'elle ne soit pas trop lourde, mais on pourra bien la mettre quand même sur le dos, puisqu'on est 2.
Tais-toi. C'est pas méchant, ces tortues. Ça n'a point de dents. Tu te rappelles bien ce que M. Joël nous a dit. On la fera cuire dans sa coque.
Comment est-ce que ça s'appelle, leur coque ?
Ah oui, leur carapace. »
Il venait, cependant, au petit Paris, d'entrer dans le canal de Gibraltar, par un bon vent du nord
qui facilitait la navigation.
L'équipage chômait sur le pont, à l'ombre des voiles. Joël était assis contre le bordage. Lugrin était assis en face de lui. Lugrin fumait sa pipe. Il tapa sa pipe sur le bordage. La cendre tomba dans la mer. Ils ont vu naître le rocher de Gibraltar, dans le fond de la distance. Il a grandi de plus en plus, venant à vous. Maintenant, on allait le laisser, à main droite. Ils cherchaient des yeux l'emplacement des batteries, sans arriver à le découvrir. Ils ont profité du moment où ils étaient le plus rapprochés du rocher pour essayer de distinguer dessus l'emplacement des batteries.
mais ils avaient eu beau, tous les trois, avoir de bons yeux, pas moyen. « C'est que ces cachotiers, ces Anglais !» avait dit Chautan. « C'est terriblement cachotier, ces Anglais. Et puis c'est habile. Ils tiennent le monde avec ça. »
Lugrin avait de nouveau bourré sa pipe, l'avait allumée. Il hocha la tête. Il retire sa pipe de sa bouche pour hocher la tête. Il se dérangea un peu, ce qui fit bouger les chaînes sur lesquelles il était assis. Et c'est alors, c'est à ce même moment que les choses qui étaient devant lui se sont mises à flotter, comme si elles étaient peintes sur de la toile. Les grands rochers, la mer, le ciel. Et il y a eu un trou dedans. Par ce trou, on voyait les feuilles des platanes continuer à être tourmentées par la vaudère. On a vu une branche, l'arbre entier. Lugrin voit des figures se tendre vers lui, dans ce même trou par lequel le vent lui arrive, et pareillement des voix lui arrivent. Il tenta d'expliquer. On faisait une navigation. Mais les voix de nouveau, tu as trop bu. Alors apparut la terrasse, tandis qu'on continuait. Dépêche-toi d'aller chercher tes gamins, ils se sont sauvés dans la péniche, ils ont failli tourner, on vient de téléphoner pour que tu viennes. Il se leva sans trop savoir encore pourquoi, ni comment. Il a commencé à venir pendant que le vent lui arrivait contre. Il y a eu encore contradiction pour lui dans les courants, une minute, parce qu'il y eut à la fois ce vent du nord d'où il sortait et le vent d'est où il entrait. Il y a eu contradiction une minute encore entre les choses qui furent là et les choses qu'il portait en lui. Puis les derniers lambeaux de celle-ci furent ôtés d'autour de ses yeux et de dedans sa tête. Ils furent pris par le grand vent, contre quoi il allait. Il se trouva nettoyé. On disait, « Heureusement qu'on les a vus et qu'on a eu le temps d'arriver avec le canot de sauvetage. »
9. Après avoir longtemps attendu son fils la veille au soir, Madame Joël avait fini par aller se mettre au lit. Elle s'était endormie, elle ne l'avait pas entendu rentrer. Il avait dû rentrer très tard. Et elle, à 6 heures, comme d'ordinaire, elle s'était levée. Elle vit alors qu'il était dans sa chambre, mais il dormait profondément. L'appartement ne se composait que de 2 pièces, qui ouvraient sur la cuisine. Madame Joël n'avait eu qu'à pousser la porte. Et elle la referma tout de suite pour ne pas le réveiller. Mais sans doute, de toute façon, ne l'aurait-elle pas réveillé. Car rien de ce qui se passa ensuite ne l'a empêché de dormir. Ni cette première visite, ni cette seconde visite. Quand les 2 femmes, l'une après l'autre, sont venues, et bien que la première criât presque, après avoir monté en courant l'escalier. C'était Madame Roy, la mère de la petite Juliette. « Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ou bien si c'est vous qui l'approuveriez peut-être? Seulement, en ce cas, ce serait honnête à vous de le dire, et aussi où vous le cachez. » Et comme Madame Joël n'avait pas l'air de comprendre, « Oui, votre fils, votre Louis, parce que c'est sa faute à lui, je vous dis, et à lui tout seul, tout ce qui arrive. Et à présent, la pauvre petite est dans le délire. Elle l'a appelée toute la nuit. » Mais alors, elle a vu que Madame Joël, décidément, ne savait rien. Elle a changé de voix, elle s'est mise à tout raconter. « C'est Suzanne qui a eu l'idée de venir me chercher. Moi, n'est-ce pas, je ne savais rien non plus. J'ai vite ramené Juliette à la maison, mais tout de suite elle a eu la fièvre. Et pendant ce temps, imaginez-vous les 2 petits Lugrin. Et Lugrin était avec lui. C'est comme ça. Et je vous dis bien, c'est sa faute. Alors on a téléphoné. Et les petits, savez-vous ce qu'ils disaient? Eh bien, ils disaient qu'ils avaient été chercher des pays, quand on leur a demandé pourquoi ils étaient partis avec le bateau. Oui, des pays. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est encore ce Joël. Et Lugrin, imaginez-vous ce qu'il a dit à sa femme quand il est revenu avec les enfants. C'est encore le plus beau de tout. Eh bien, il a dit à sa femme, « Laisse-les tranquilles, je vois qu'ils sont de mon sang. » Il les approuvait, autant dire. Voilà où on en est. Elle parlait dans la cuisine, lui dormait pendant ce temps. Et Madame Joël n'avait pas pu encore placer un seul mot, tellement il venait de choses pêle-mêle l'une sur l'autre. Mais c'est encore moi la plus à plaindre, parce que la pauvre petite, elle est bien malade. Elle ne sait plus où elle est. Elle a parlé toute la nuit. Elle me raconte des histoires, des histoires. Ayant été d'abord dans l'intention de faire une scène, puis la colère lui a passé. À présent, elle pleurait. « Alors, parlez-lui, n'est-ce pas ? Empêchez-le de sortir, gardez-le chez vous, avant que tout soit sans dessus-dessous ici. Et puis, peut-être que Juliette va l'oublier si elle ne le revoit plus, vous comprenez ? S'il n'est pas de nouveau là. C'est ce que je suis venu vous dire, parce que Madame Raymondin la garde pendant ce temps. À présent, je me sauve vite. » Et de nouveau, Madame Joël n'avait rien pu dire. Lui dormait pendant ce temps. L'eau bouillait sur le feu depuis un moment. De temps en temps, une bouffée de fumée sortait par la bouche du fourneau et se répandait dans la pièce, comme quand on fume la pipe. Il faisait lourd, cette veau d'air est un vent chaud. Tout le côté du ciel, qui au-dessus du fond du lac, restait chargé de gros nuages, tandis que son autre côté était beau bleu. On voyait ce ciel de deux couleurs par la fenêtre, en même temps qu'on voyait le port être d'une couleur plus claire en avant du lac, presque noir, avec des mouchetures blanches disposées dessus régulièrement. Le bruit des vagues était un grand bruit. Est-ce pourquoi on ne l'a pas entendue, celle-ci, quand elle a heurté à son tour, puis elle est entrée. Et Madame Joël, dans sa surprise, est restée immobile, continuant à tenir la bouilloire au-dessus du filtre de fer étamé. Elle n'avait même pas pensé à refermer la porte. Elle s'est tenue debout devant la porte restée ouverte. Elle a seulement secoué la tête. Toute sa figure parlait pour elle. Elle n'a pas eu besoin de parler. Madame Joël était cependant arrivée à remettre la bouilloire dans son trou. Ainsi, elle a pu venir, venant entre Suzanne et la fenêtre, venant en noir sur la fenêtre blanche. Elle est venue, un peu le long de la table, puis elle a été arrêtée parce que, devant elle, « Non !» Et on a dit encore une fois « Non !» Et puis « Non !» avec la tête, comme en réponse à une interrogation. Il faisait un temps voilé, et lui dormait pendant ce temps. « Voyons, Suzanne !» Mais de nouveau, « Non, non !»« Suzanne !» On disait tout haut, « Suzanne ! Suzanne !» Mais Suzanne, « Est-ce qu'il est là ?» Puis voilà qu'elle se laisse aller de côté. Il dormait. Elle se laissa aller de côté. Une de ses épaules a été plus basse que l'autre. Il dormait pendant ce temps. « Voyons, Suzanne, je suis sûre que vous vous faites des idées. » Un temps voilé, comme on dit. Et tout un côté du ciel est noir, l'autre est bleu. Tombée à présent sur un tabouret, puis étant allée encore plus de côté avec sa tête, qu'elle a mise sur son bras, qui est posé à plat sur la table. Et ensuite, on s'est soulevé. Pendant que des paroles viennent toujours qu'on n'entend pas, et des questions. Avec le même côté du corps qui est allé en bas, on se tire en haut, le côté le plus lourd des deux, celui où est le poids, le côté gauche. On a secoué de nouveau la tête, rien à faire, non, laissez-le, il ne pense plus à moi. On a été debout, non, rien à faire, rien à faire. On a fait un pas vers la porte, on s'est retourné, non, non. On se retourne encore. De nouveau des gouttes d'eau bouillante, toutes rondes, couraient sur le fourneau comme des boules de vif argent. Et ce temps voilé, et ces grosses vagues, pendant que Madame Joël regarde devant elle. Mais elle a beau regarder. Il y a devant elle comme s'il n'y avait jamais eu personne. Alors elle est revenue devant son fourneau. Il dort toujours. Elle a fait son café, elle s'est mise à le boire. 7 heures sonnent. Vite, elle met un linge autour de la cafetière et du pot à lait, posés eux-mêmes à côté de la miche de pain. Cependant, ils dormaient toujours, et l'horloge a sonné encore plusieurs fois. Il était couché sur son petit lit de fer, dans une chambre ne mesurant pas plus de 3 mètres sur 4, et 2 en hauteur. Il a été un moment encore seulement une chose, prenant une toute petite place sous la couverture grise à rayures, sous la couverture en grosse laine rayée, entre ses 4 murs, entre un plancher et le plafond. Il a été là, comme pour faire voir le peu qu'est un homme, quand il est dans l'allongement, sans vie encore, sans amour. De temps en temps, un coup de vent faisait comme si on jetait une poignée de sable sur les tuiles. Et lui,
immobile, et quatre murs et le lit de fer dans un coin. Lui, sur ce lit, dans l'allongement, comme pour faire voir le peu de place qu'un corps occupe, quand il n'est qu'en un seul point de la terre, étant contenu seulement, contenu tout entier par le lit, qui est contenu à son tour par la chambre, sans amour, entre quatre murs, avec le seul apport de la fenêtre qui est un peu de ciel, posé sur un peu de montagne, et c'est tout. Pourtant c'est là-dedans qu'il a bougé un bras, puis l'autre. C'est de là-dedans qu'il porte un premier regard vers en haut. Le plafond s'est tenu, un instant encore, à une petite distance de lui, avec son vieux plâtre fendillé, où les lampes à pétrole avaient dessiné des ronds noirs. Le plafond, puis voilà que le plafond n'a plus été, il se fend par le milieu. Le plafond est frappé, il tombe, après quoi les murs ont été frappés, et il tombe. Et lui semblait être toujours là, s'étant à présent assis sur le lit, dont le sommier métallique crie entre les tringles lui servant de cadre. Et les quatre pieds sont aussi de simples tringles, montés sur roulettes, mais c'est en apparence seulement, car le lit n'est plus, ni les murs. Joël se lève, il n'est plus là, tandis qu'il fait se déplacer ses pieds nus sur les planches de sapin, puis sur le carreau de la cuisine. Il a le monde autour de lui, il est assis avec le monde, tandis qu'il mange son pain. Il mange son pain, il s'est levé, de nouveau. Il rentre dans sa chambre. Alors, avec la main, il va sous le lit. Il en ramène un sac de toile tenu fermé par une corde. Il est toujours avec le monde. Un sac de toile qu'il met debout et qu'il tient debout entre ses genoux. Madame Joël était à l'ouvrage. Suzanne aussi devait être à l'ouvrage. Ici, dans les maisons, dans les jardins, dans les vignes, dans les boutiques, dans les bureaux, dans les ateliers, on est partout à l'ouvrage. Lui, c'est à une autre espèce d'ouvrage qu'il s'est mis, ayant ouvert le sac, d'où il tire toutes sortes d'objets. Un dieu est venu, un dieu chauve, assis dans des nuages. Le dieu tient ses jambes repliées sous son corps, en sorte qu'on ne voit pas ses jambes. Il tient ses mains en pierre jaune transparente, l'une sur l'autre, entre son ventre et sa poitrine. Car c'est dans leur livre, là-bas, et ils croient à ce qu'ils y trouvent, tandis que Joël venait justement de sortir du sac un de ces livres, où les lettres sont disposées non en ligne, mais en colonnes, étant mises non les unes à côté des autres, mais les unes au-dessus des autres. Puis des babouches de femmes en cuir rouge, brodées d'or, puis une petite pirogue, comme celle qu'on voit sur les fleuves de là-bas. Il y avait aussi une soucoupe, faite d'une moitié de noix de coco. Il y avait des plumes de perroquet. C'est pourquoi Madame Joël a pu parler tant qu'elle a voulu, étant vite venue voir ce qu'il faisait entre deux de ses ménages. Il a répondu simplement, « Tu sais, ils n'ont pas partout la même religion que nous. » Il lui a montré le dieu de pierre avec son nuage sur la table, et le nuage était taillé à plat dans le bas, de manière qu'il put tenir debout. « Mon pauvre Louis, à quoi penses-tu ? » C'est un de leurs dieux, c'est en Chine. Ils brûlent, pour lui faire plaisir, des baguettes qui sentent bon. Mais mon pauvre enfant, qu'est-ce que tu dis ? Et elle continuait à venir avec des paroles. Seulement il était trop loin, il ne pouvait plus être abordé. Comme quand des vagues entourent une île, et on s'approcherait dans une trop petite barque. Car tout ça c'est du vrai, a-t-il dit, et tout ce que je dis, moi, c'est la vérité. Ayant achevé de vider son sac, ayant été jusqu'au fond de son sac, et les objets qu'il en avait tirés se trouvaient rangés sur la table, étant là comme des témoins. Un et deux, cinq et six, huit et dix, avec de la ficelle goudronnée et un morceau de toile à voile. Et est-ce que c'est du vrai, oui ou non, tout ça? Alors toi, qu'est-ce que tu fais, là? Alors elle a reculé. Elle reculait toujours plus. Encore un coup de Vaudaire. Il continuait à faire très chaud. Bien que le soleil ne se montrât toujours pas, il faisait aussi chaud que si le soleil eût donné dans toute sa force. Ces coups de vent qui venaient animaient à peine l'air lourd
et sans bénéfice aucun de fraîcheur. Ces petits hommes avaient des chapeaux de paille de riz, en forme d'abat-jour. Joël les voyait passer sur la digue, avec leurs jambes maigres, dans leurs vestes de cotonnade. Il regardait devant lui. C'est une eau jaune qu'il voit, non la belle eau bleue d'ici, où le poisson se distingue à une grande profondeur. Il se tenait toujours à côté de la table, regardant par la fenêtre, et c'est le monde des images qu'il voit, c'est le monde des images qu'il a continué à voir. Mais alors Joël a recommencé à distinguer un peu de l'eau bleue, puis c'est le port qui s'est montré, puis c'est le quai qui s'est montré. Car cet autre, lui aussi, se tient dans un monde inventé, et il avait paru, poussant ce monde inventé devant lui. Joël le voit venir, vêtu de blanc, une branche de feuille à la main. Il voit alors le quai, il voit l'homme dessus, il voit en arrière de lui toute une troupe d'enfants qui suivent. C'est encore un peu notre monde à nous, n'est-ce pas? Aussi Joël remet à la hâte les objets dans le sac. Il est déjà dans l'escalier. Il s'est mêlé à ceux qui allaient derrière l'homme. L'homme marchait plus devant. On le voyait qui marchait devant nous, tête nue, dans ses vêtements blancs. On voyait ses cheveux tomber sur sa nuque et de chaque côté de sa tête. On était maintenant sur le quai. On a vu le quai qui s'éclairait. Il y avait le ciel en avant du quai. On le voit lui aussi qui s'éclaire. Puis ce fut le mont planté en vigne, ce fut sous un morceau de ciel, beaucoup moins grand, mais toujours en avant de l'homme qui allait, parce que sa tête a été à mi-hauteur du mont. La lumière a eu cette source pour la pente avec ses ceps, puis pour les rochers bleus tachés de blanc. Et un nouveau pays, ainsi, venait partout. Et Joël le voyait venir, et Joël le reconnaissait. Cependant, en même temps que le quai, la ville venait de prendre fin. Sur la gauche, il y avait la route. Il y avait sur la droite la grève. Dans l'entre-deux, quelques maisons se tenaient au milieu de leur jardin. Et c'est à cet endroit que des femmes ont paru, qui étaient trois ou quatre, et venaient de la route, puis ont tourné vers nous. L'une d'elles marchait en avant des autres. C'était Madame Raymondin. Elle a tendu le bras, elle leur a montré l'homme. Alors elles se sont avancées encore, et elles sont entrées aussi dans cette nouvelle couleur qui était partout sur les choses, à présent belle verte, belle bleue, belle jaune. Il faut dire que la Vaudère est un vent qui ordinairement n'amène pas la pluie, au lieu qu'elles étaient grises. Le mont, la pente du mont, les montagnes, le ciel, l'eau. Et Joël était toujours avec les enfants que les femmes avaient rejoints, si bien qu'il y a eu les enfants, Joël et les femmes, allant ensemble, tandis que l'homme se dirigeait du côté de la maison de Lugrin, comme dans le vieux temps, comme du temps de l'autre lac, et il y avait déjà cette belle lumière, fréquentant déjà alors les bords de l'eau et les pêcheurs de poissons. De nouveau, il va vers ceux qui jettent leurs filets et sont sous leurs petites voiles. Ceux qui pêchent le poisson dans leur bateau à la coque arrondie et à deux bancs, c'est-à-dire à deux paires de rames, ou à une paire, ou hisse une petite voile. Et, en effet, ils étaient deux qu'on a vus tout à coup penchés contre l'eau, penchés là-bas jusqu'à toucher du bout de la vergue la vague, le haut de ces élévations des vagues, qui sont comme les arêtes en longueur qu'il y a entre les sillons dans les labours. On les a vus venir. On voyait la petite voile être de plus en plus blanche. On voyait dans l'air nettoyé une main qui tenait une pipe. On voyait dans l'air parfaitement transparent, comme quand on vient de laver une vitre, le petit chien couché sur les genoux de l'aide de Lugrin. Et Madame Raymondin montrant l'homme, puis la barque qui venait. « Vous voyez ?» Elle a pris sa voisine par le bras, et montrant l'homme qui, cependant, continuait de faire face au lac et à la barque qui venait. « Vous voyez ? Vous voyez ?» En même temps, la petite maison de Lugrin s'était ouverte, laissant paraître les deux enfants de Lugrin qui sortent, après avoir vu ce qui se passait par la fenêtre. On a entendu qu'on les appelait. « Georges, veux-tu venir ici ? Georges, André, voulez-vous bien ?» Leur mère,
mais eux n'entendent pas, ou font comme s'ils n'entendaient pas, à cause d'une force plus forte que la peur d'être punis, regardant l'homme tant qu'il pouvait, et ce monde, et toutes ces choses. Puis voilà que le petit chien, les ayant reconnus, s'est mis à aboyer contre eux dans la barque, de plaisir. L'homme se tenait toujours tourné vers la barque qui venait. Il a attendu qu'elle se fût encore un peu plus rapprochée. Puis, lui faisant face, il lui a parlé. Et sur la barque, l'écoute à ce moment a été lâchée, si bien que la voile s'est mise à pendre le long du mât, en faisant des plis. On a parlé à la barque. Et Lugrin, tenant d'une main le gouvernail, ôte sa pipe de sa bouche. Lugrin répond. On lui parle, il répond. Il répond en secouant la tête. Le mouvement en avant de la quille prenait fin. Lugrin était encore assis sur le côté de la barque, pendant qu'au-dessous de lui, l'élan qu'elle avait meurt peu à peu sous la voile qui pend tout à fait. Puis Lugrin vient se mettre au milieu de l'embarcation et son aide s'assied à l'arrière. Lugrin vient se mettre debout, au milieu de sa barque, pour parler. Il répond que non, en secouant la tête. Non, il n'a rien pris ce matin. Alors on lui dit de nouveau quelque chose. Alors il a eu l'air étonné, mais on lui répète la chose. Il donne alors un ordre à son aide. Il a repris son filet resté vide, le filet qu'on dispose après qu'il a servi en guirlande le long du bord. Ils font une manœuvre, c'est-à-dire que l'aide se met aux rames et Lugrin jette à l'eau la large bouée de liège, marquant la place d'où on part. Puis on commence à décrire un grand cercle qui vous ramène pour finir au point d'où on est parti. Lugrin, à demi penché, jetant le filet à l'eau, poignée après poignée, dans le grand soleil, avec des étincelles qui sont aux rames quand on les lève, et avec cette belle eau d'un bleu comme celui qu'on voit dans le baquet où on a mis fondre la boule pour la lessive. Lugrin qui a jeté son filet aussi longtemps que le cercle a été décrit, et on regarde. De sorte qu'on n'a pas vu que M. Pensaire arrivait pendant ce temps, derrière vous, avec ses doubles galons d'or. Tellement on regardait ce qui va se passer, mais on le savait d'avance, car c'est une chose écrite, et c'était il y a bien longtemps. Mais peut-être que le temps n'existe plus. Quand il avait dit « Vous serez pêcheurs d'hommes », et il avait dit « Allez, ayez confiance, et jetez de nouveau votre filet à l'eau ». Et à présent, on voyait les deux hommes, tirant chacun sur un des bouts de la corde qui venait, se tournant le dos, et avec grand-peine à cause du poids, ployés en deux, s'appuyant du pied contre le bordage. Et, dans le bougement de l'eau, une chose qui n'était pas l'eau bougeait. Tout parmi le brillement des petites vagues, un brillement qui n'était pas le leur commençait à venir aux yeux. « Mon Dieu ! Est-ce vrai ? Est-ce vrai ? Tout ça de poids, tout ça de poissons, et leur grand nombre se tordant avec des sauts brusques sous le luisant des écailles, puis venant peu à peu par paquets hors de l'eau. « Vous, vous allez me suivre !» C'était M. Pensaire. Le sergent-major Pensaire venait de mettre la main sur l'épaule de l'homme. « Allons, arrivez, j'en ai assez, il y a trop longtemps que ça dure !» Criant en même temps aux enfants. « Et vous, dépêchez-vous de vous sauver !» Aux femmes, « Vous n'avez pas honte ?» Mais à ce moment, on a vu Joël s'avancer. La peau de son cou a été soulevée par deux cordes qui s'y tendaient, parce qu'il serrait les mâchoires. « C'est vous qui allez le lâcher !» Et l'homme s'est trouvé libre de nouveau, tandis qu'on a entendu la grosse voix de Lugrin. « C'est ça, Louis, tu fais bien. Vas-y toujours, c'est ça. Et puis, n'aie pas peur, on arrive !»